Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
20h10, 20h11 même dans Soft Power, c'est l'heure du débat, le numérique et politique. Et ce soir, on parle du mot algorithme. Ce mardi, Parcoursup, la plateforme d'orientation post-bac, a livré ses résultats et 400 000 futurs bacheliers se sont retrouvés sans affectation ou dans d'interminables listes d'attente. Certains aussi, qui avaient fait des choix juste pour, parce qu'il fallait, obtiennent des choix qu'ils n'avaient pas vraiment voulu. La faute à un algorithme qui était chargé de répartir les étudiants dans les formations. Alors ce soir, pour terminer cette émission, on s'intéresse donc à ce mot « algorithme ». Comment fonctionnent les algorithmes? Pourquoi sont-ils si opaques? Quels problèmes de gouvernance posent-ils? Pour en parler, nous sommes avec Gaël Duval, entrepreneur et fondateur de jechange.fr, proche de La République En Marche, et Christian Paul, ancien ministre et député. Christian Paul, pour introduire ce sujet.
Bonsoir. Les algorithmes, c'est à la révolution numérique ce que le moteur à explosion était à la révolution industrielle. C'est vraiment le cœur productif d'une certaine façon du monde numérique, et ça pose évidemment de très nombreux problèmes. Alors qu'est-ce que c'est un algorithme? D'abord, c'est en fait une série d'instructions qui sont embarqués dans un process numérique, une série d'instructions qui sont mobilisées pour obtenir un résultat à partir des données qu'on va fournir, à la plateforme, qu'on va fournir au moteur de recherche. On voit qu'à chaque étape de cette mutation numérique, sont en train d'arriver des algorithmes de plus en plus élaborés. Au départ, c'était les moteurs de recherche, Google. Ça a été ensuite les grandes plateformes, Facebook ou Twitter. Et c'est aujourd'hui des algorithmes nombreux, terriblement sophistiqués, qui permettent de commencer à parler sérieusement d'intelligence artificielle.
Mais Christian Paul, ça veut dire que, certes, c'est des outils, donc ils font un calcul informatique, ils s'appuient sur des données, personnelles ou pas d'ailleurs, pour faire des prévisions ou prendre des décisions, mais il y a quelqu'un qui les a programmés, donc c'est pas un outil qui va fonctionner tout seul.
C'est un outil qui est tout sauf neutre. Et les algorithmes, qui sont au départ des instructions numériques, posent de redoutables problèmes politiques. Vous en avez cité un avec Parcoursup, c'est-à-dire la façon dont on affecte ou pas des étudiants dans les universités françaises aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a de l'humain à certains moments de la chaîne, quand on examine les dossiers des étudiants. Puis à un moment, c'est un algorithme qui prend la main en quelque sorte. Mais ça n'est pas le seul problème, bien sûr, que l'on rencontre aujourd'hui avec les algorithmes. Parce qu'il y a un paradoxe extraordinaire. C'est un outil qui, au départ, a une promesse, en fait. Comme souvent dans le monde numérique, il y a une promesse initiale, c'est de rendre service à chacun. Après tout, un algorithme, ça sert à documenter, à se repérer, à s'orienter dans le web, c'est-à-dire parmi des milliards d'informations quotidiennement produites.
Donc sans algorithme, on ne pourrait rien faire.
Nous sommes aveugles, évidemment, dans le monde numérique. D'ailleurs, le monde numérique n'existerait pas sans algorithme. Et puis, dans le même moment, on voit bien que les algorithmes, d'abord, échappent parfois à leur créateur, et que leurs fonctions sont extrêmement diverses. Il y a des algorithmes qui rendent service, il y a des algorithmes qui servent d'abord à du profilage, à du ciblage marketing, il y a des algorithmes de surveillance. J'ai le souvenir de m'être opposé, comme d'autres, aux boîtes noires algorithmiques, c'est-à-dire à des sondes que les services de renseignement sont désormais autorisés à placer, rappelez-vous l'affaire Snowden, sur les réseaux numériques, et qui sont des algorithmes de surveillance. Et puis, il y a des algorithmes très politiques. D'ailleurs, tout est politique dans l'algorithme, on y reviendra, je pense, tout à l'heure, mais il y a aussi des algorithmes qui sont destinés à la chose politique. Et on a vu récemment avec Cambridge Analytica comment des usages dévoyés des algorithmes permettaient de cibler des électeurs avec des messages très personnalisés, parce que l'algorithme, c'est un outil. C'est l'outil de la personnalisation de l'Internet. La personnalisation, c'est très sympathique quand il s'agit d'outiller chacun pour être plus autonome ou plus libre. Ça peut être terriblement dangereux quand ça sert, encore une fois, à cibler des consommateurs ou des électeurs.
Alors sur ce sujet, Gaël Duval, vous êtes entrepreneur, donc vous voyez aussi l'algorithme peut-être d'un autre point de vue.
L'algorithme, moi je le vois effectivement en tant que qu'usager, mais aussi en tant qu'entrepreneur, sur lequel on développe des moyens de rendre service sur Je Change. On les utilise pour aider les gens à choisir leurs opérateurs téléphoniques ou énergétiques ou bancaires en fonction de leur propre profil, de leurs propres attentes, de leurs propres des prix. Bref, faut pas oublier, et c'est ce que je rejoins, mais même l'algorithme, même les choix de l'algorithme sont basés sur des choix humains. C'est à la base, quand on détermine un choix algorithmique,
la programmation, le code.
Il y a un moment, quelqu'un qui va considérer qu'une valeur vaut plus qu'une autre, qu'une donnée vaut plus qu'une autre et qu'un choix vaut plus qu'un autre. Et c'est un choix humain. Le vrai problème des algorithmes, c'est la quantité d'informations qu'elles ont à traiter. C'est que ensuite,
et donc le pouvoir
ça crée, c'est surtout
acquiert.
Ça crée des biais qui parfois sont pas du tout imaginés ou imaginables parce qu'il y a une volumétrie telle d'informations et de données qui commencent à rentrer qu'au bout d'un moment, il y a une sorte de perte de maîtrise de l'impact voulu par l'algorithme. Et on voit bien que les trois quarts des problèmes, parce qu'il ne faut, pas toujours considérer qu'un algorithme, c'est quelque chose qui a été fait à mauvais escient ou quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est souvent quelque chose qui est fait pour aider, pour favoriser un choix. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on a une multitude et des millions de données à traiter, eh ben, on cumule, ça finit par faire des biais, parce que l'algorithme doit choisir entre une fonction et une autre, et un choix et un autre. Alors, sur Je Change, c'est beaucoup plus simple, parce que ce sont des factures. Après, quand vous avez des millions de personnes qui, à un moment donné, font des choix sur des données de universitaires de leur choix, il y a à un moment donné, effectivement, des biais qui peuvent malheureusement apparaître sur les données.
Sur les 16.
Justement, est-ce que on sait que l'un des problèmes de l'algorithme, vous l'avez dit, c'est la question des données qu'il a à traiter, des données auxquelles il a été exposé quand il a été, on va dire, conçu ou entraîné. On sait qu'il y a de multiples exemples, que ce soit dernièrement Allociné qui rapprochait des films qui n'avaient rien à voir avec des biais racistes, qui n'ont pas été pensés probablement par les gens qui ont fait l'algorithme d'Allociné. Même jamais. Mais effectivement, qui pose de vraies questions sur la question tout simplement de la manière dont on entraîne ou on paramètre l'algorithme. Est-ce qu'il existe aujourd'hui ? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il existe ? Même si évidemment, on parle bien souvent ici d'algorithmes privés, on fait exception majeure de Parcoursup, qui puissent être des comités peut-être éthiques qui regardent sur la manière dont les algorithmes, y compris privés, en tout cas sur des familles, des grandes familles d'algorithmes, ça fait partie de plusieurs propositions de chercheurs aujourd'hui, puissent garantir, en tout cas qu'il puisse y avoir des audits sur la manière dont on nourrit et dont on produit, ou en tout cas on configure un algorithme, ou en tout cas des grandes familles d'algorithmes.
Christian Paul.
Oui, je crois que les algorithmes ne doivent pas échapper à la régulation. Elle est à inventer d'ailleurs, parce que comme tout ça bouge très vite et que
c'est pas sur le sol national bien souvent.
Et on est déjà à X générations d'algorithmes. Il est clair que il faut pouvoir du côté de la puissance publique au plan européen d'ailleurs. Et on en voit bien l'utilité en ce moment par exemple face à Facebook. Mais pourquoi ? Parce que il y a au moins trois principes qu'il faut arriver à faire prévaloir dans ce débat. D'abord c'est la transparence des algorithmes. Oui. Est-ce que les algorithmes sont clairement conçus d'une façon qui les rend possiblement visibles. Je suis allé voir l'algorithme de Parcoursup, mais si n'étant pas ingénieur informaticien, il est évident que c'est absolument illisible pour moi. Donc ce qui m'intéressait, c'est pas seulement d'avoir le code, mais d'avoir aussi le cahier des charges, pour voir quelles valeurs, quels objectifs on met au cœur de cet algorithme, comme d'autres. Donc, il y a la question de l'opacité, de la transparence. J'avais fait voter un amendement dans la loi République numérique pour que tous les algorithmes publics soient rendus publics en open source, en format ouvert. Il faut quand même être expert citoyen, informaticien,
pour comprendre.
Bon, ensuite, il y a la question de la loyauté des algorithmes. Quels intérêts sert l'algorithme. Si l'algorithme d'un moteur de recherche, par exemple, sert en même temps des intérêts publicitaires, il doit le dire. On doit le savoir. L'internaute ne doit pas être simplement un consommateur passif, progressivement pris dans le filet. Et la troisième valeur, principe qu'il faut faire valoir, alors la CNIL y travaille, on y travaille également au plan européen, c'est la question du pluralisme. Et ça veut dire deux choses. D'abord, il faut éviter la concentration, par exemple des moteurs de recherche. J'ai cité Google.
Plus de 90% en France.
Il faut que je cite Quant parce que on doit rééquilibrer aussi chacun dans le propos.
Quant étant un moteur de recherche français,
voilà, absolument.
Même s'il travaille avec Bing de Microsoft, malgré tout, il est un peu plus français.
Il faut éviter la concentration, le monopole des algorithmes sur certains sujets. Et puis, il faut également permettre la concurrence. Et il faut éviter l'enfermement parce que le problème des algorithmes, ils peuvent être très vertueux, ils peuvent être très utiles. Ça peut être la liberté de l'individu augmenté dans le monde numérique, mais ça peut être aussi une bulle qui enferme.
Parce que mêmes informations, même musique, même culture.
Quand vous regardez, et on s'en réjouit, telle plateforme de cinéma ou de série, ou tel opérateur de streaming de musique, ou même Twitter, on voit bien que progressivement, on nous amène dans une bulle. Donc il faut, comme toujours dans le monde numérique, se demander qui maîtrise quoi, et il faut redonner aux individus la capacité de pouvoir peser sur tout ça.
C'est une bonne transition, parce que moi je pense surtout que celui qui a le pouvoir ultime, c'est l'utilisateur. On le voit bien, les choses ne bougent que
ça,
quand...
Ça c'est l'objectif,
c'est pas toujours vrai. Si, c'est souvent vrai, parce que quand on regarde ce qui s'est passé avec Facebook récemment, c'est parce qu'il y a eu une prise de conscience des utilisateurs
après
un scandale, mais peu importe. Enfin, je veux dire, c'est l'utilisateur. Quand on regarde ce qui se passe dans la publicité, l'utilisateur qui en a marre d'être chassé, pourchassé par de la publicité, aujourd'hui les adblockers représentent 40% des usages d'une certaine audience du web. Donc ce qu'il faut prendre conscience, c'est que l'utilisateur in fine, quand il a pris conscience de l'impact de l'algorithme, de la force de l'algorithme, il est lui-même le premier dénonciateur. Donc effectivement, peut-être qu'il faut
on pourrait imaginer quelque chose qui ne soit pas nécessairement issu de la puissance publique, mais peut-être même des labels.
Mais je pense que surtout pas de la puissance publique, parce que la puissance publique est toujours en retard. Elle a un process de prise de décision qui est lente, elle a une process de discussion qui est lente. En revanche, l'utilisateur, à un moment donné, est le meilleur moyen d'accélérer la prise de position.
Il faut les deux, bien sûr. Heureusement qu'aujourd'hui, l'Europe, on n'a pas parlé des RGPD, enfin du RGPD, nouvelles règles de protection des données personnelles, mais heureusement que l'Europe a tapé du poing sur la table, a mis en place une règle dont on voit bien que c'est pas simplement un mur de papier. Donc oui, il faut de la capacité, de la maîtrise individuelle, mais il faut aussi l'action de la puissance publique. C'est la seule façon d'avoir un Internet à visage humain durablement.
Je suis d'accord, mais je pense profondément qu'il y a de la part de l'utilisateur une capacité de véritablement changer le jeu, parce que la puissance est telle, et la source économique, elle vient pas du Parlement, elle vient des utilisateurs.
Il faut pas diaboliser les algorithmes, mais s'il vous plaît, aucune naïveté.
Non, c'est absolument pas le cas.
Alors, un sondage, 64% des Français estiment que les algorithmes représentent plutôt une menace en raison de l'accumulation de données personnelles, mais un sous-sondage qui concerne seulement les 18-24 ans montre qu'ils sont 51% à considérer qu'ils sont, pour ce qui concerne les 18-24 ans, une opportunité. Donc on voit un peu une différence entre l'ensemble de la population qui est plutôt inquiète des algorithmes, alors que les plus jeunes, la fameuse génération Y dont on parlait tout à l'heure, et même Z, considèrent qu'ils sont plutôt une opportunité. C'est un sondage IFOP pour la CNIL. Alors on a évoqué plusieurs exemples d'utilisation d'algorithmes. On peut parler des classements d'informations, de la personnalisation publicitaire, des recommandations de produits, du ciblage des comportements, ou encore l'orientation des déplacements. Mais j'aimerais revenir maintenant sur Parcoursup. Christian Paul, peut-être quelle est votre analyse à la fois sur, malgré tout, l'efficacité de cet algorithme et ses faiblesses, voire sa faillite
en partie. La sélection qui s'installe par l'intermédiaire de Parcoursup n'est pas qu'une affaire d'algorithme.
Donc là, c'est la sélection de l'université.
C'est un choix politique. Deuxièmement, il y a une intervention humaine, c'est vrai, celle des enseignants. Quand ils acceptent, ils ne le veulent pas tous.
Opérer cette
sélection. Donc pour moi, le vice principal de Parcoursup, c'est que les étudiants ne font pas un choix ordonné et hiérarchisé. Et donc vous allez avoir des dizaines de milliers, même des centaines de milliers d'étudiants qui auront une réponse positive au terme de ce cursus qui enchaîne de l'humain et de l'algorithme, et qui pour autant seront terriblement insatisfaits de la décision qui est prise, qui les envoie parfois à 300 km de chez eux dans une formation qui n'était pas dans les 3 ou 4 premiers choix.
Parce qu'il y a des vœux, il n'y a plus de vœux hiérarchisés.
Il y a 10 demandes.
Et obligatoires.
10 demandes obligatoires. Donc il est évident que sur les 10, on aura bourré la liste, évidemment. Parce que c'est assez rare que vous ayez également envie de 10 formations universitaires. Donc le système, pour moi, est vicié à la base. Et je demande vraiment à tous ceux qui nous écoutent d'être très attentifs à cela. Il ne suffit pas d'avoir une réponse positive. Il faut vraiment vérifier auprès des étudiants qu'ils ont une réponse positive sur une formation
qu'ils ont vraiment désiré
suivre et qui n'est pas inaccessible pour eux, y compris pour des raisons géographiques.
Gaël Duval, sur ce sujet, vous n'êtes pas spécialiste du tout. De Parcoursup, mais comment est-ce que vous voyez à la fois les opportunités, mais aussi les fragilités de ce type d'algorithme ?
Moi, je trouve déjà qu'il y a eu un mouvement assez intéressant justement de publier l'algorithme et de le rendre public, même si après, il y a des rumeurs sur
la manipulation,
la manière
potentielle
dont c'est fait, mais je trouve ça hyper intéressant de le rendre public et de réagir en disant qu'on va publier.
Et c'est obligatoire, d'ailleurs, tous les,
bien sûr,
depuis la loi d'Axel Lemaire, tous les algorithmes publics doivent être
rendus
publics, nous y avons veillé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont lisibles. Hein. Voilà. Allez voir.
Je suis d'accord, c'est ce que ça allait être.
Il faut être
mon
ingénieur
point.
Informaticien.
Ça allait être mon point.
Ça allait être mon point sur le fait qu'ils ne sont pas forcément lisibles. Après, je pense que sur ce sujet-là, le vrai problème, c'est qu'effectivement, déjà, il y a un gros choix qui est un choix lié au dossier. Il ne faut pas non plus se mentir sur la manière dont c'est structuré, dans la manière dont c'est fait. Le dossier compte beaucoup sur la manière dont a organisé la suite de
la géographie aussi. Hein, la géographie, etc.
Et après, là où je rejoins Christian Paul, c'est que c'est vrai que quand on vous demande de choisir obligatoirement 10 pistes de formation future
sans les
hiérarchiser, c'est comme si vous étiez au restaurant et que vous deviez choisir parmi un menu, à la fin vous finissez par manger ce que vous avez pas envie de manger, mais donc c'est sûr que c'est ça sans doute qui est fortement optimisé. Je pense qu'il faut réduire le nombre de choix, sans doute peut-être aussi les hiérarchiser, et puis néanmoins, et après c'est mon avis personnel, mais c'est que je pense qu'on est dans un sens de sélection sur l'université qui est un peu obligatoire, qui est un peu nécessaire et qui rend l'usage de ce genre de
c'est ce qui risque de se passer si l'algorithme marche si mal.
C'est pas un risque, c'est malheureusement une nécessité.
Zoé Sez et puis Christian Paul.
Moi, je pose juste une question extrêmement bête au-delà des enjeux économiques, même si évidemment ils prévalent à chaque fois. Est-ce que c'est typiquement le type d'intervention de moment de l'État où on a vraiment besoin d'un algorithme?
Mais pas forcément. Je pense qu'il y a une tentation très forte en ce moment qu'on appelle le gouvernement ou l'action publique par les algorithmes. Et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant à ça.
Avec une utopie d'égalité parce que, il n'y a pas tellement de
volonté d'égalité derrière tout ça. Je crois qu'il y a parfois une volonté, alors soit d'infantilisation, soit d'automatiser la décision publique, ce qui peut permettre évidemment d'aller vers des dangers considérables. Aux États-Unis, il y a une affaire très célèbre depuis 2-3 ans maintenant qui concerne la justice américaine qui utilise des algorithmes prédictifs pour savoir si on va être récidiviste. Donc ça permet de quantifier la peine. Bon, là, on est devant le cauchemar des algorithmes.
On en reste là pour ce soir sur une note pas forcément optimiste. On reviendra d'ailleurs sur Parcoursup dimanche prochain dans Soft Power. Merci à vous, Christian Paul, ancien ministre, ancien député de la Nièvre, Gaël Duval, fondateur de Je Change. .fr, proche de la République en marche. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, on vous poste sur Twitter au mot-clé SoftPower et sur notre page sur le site de France Culture des articles, des ouvrages, des références. Le temps de vous remercier aussi car vous êtes désormais plus de 151 000 à écouter chaque semaine SoftPower en podcast. Ça fait 30% de plus que le mois dernier et cela bien sûr en complément de l'audience habituelle radio, hertzien, en voiture, etc. En faisant la cuisine ou encore du footing ou même en allant à l'étranger, en voyageant en TGV. Quand les TGV circulent, bien entendu. La semaine prochaine, on parle de fooding, de food trucks et de slow food, bref, de l'art de manger à table et en ligne. Bonne soirée, merci à tous, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.